Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui dans un jardin, le jardin de la ferme du Mas Perdu. Et nous nous trouvons avec Sabine Rosier, qui est la responsable du centre de pomologie d'Alès et la présidente de l'association Les Vergers de Lozère. Sabine, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va découvrir un petit peu les travaux du jardin, mais plutôt côté fruitier, et on va parler particulièrement des cerises, puisque c'est l'époque.
C'est l'époque, en effet. De la cerise, c'est la pleine période de production en ce moment, enfin en tout cas ça vient de commencer, donc avec les précoces qui commencent à mûrir. Donc voilà, on est sous un beau cerisier,
oui.
donc qui comprend pas mal de fruits mûrs et puis des fruits qui sont en attente. Et donc c'est la bonne période également pour tailler. Parce que pour rappel, les fruits à noyaux se taillent plutôt pendant la saison de végétation. Alors pourquoi? Les fruits à noyaux, ce sont des arbres fruitiers qui ont beaucoup, beaucoup de sève et une vigueur importante. Si vous les taillez pendant l'hiver, en fait, toute cette sève qui s'est accumulée à la fin de l'hiver et qui se tient au niveau des racines, etc. Si vous les taillez pendant l'hiver, en fait, au printemps, quand ça va ressortir, il y aura un excès de sève. Donc cet excès de sève va donner beaucoup trop de bois. Et en fin de compte, il va vous falloir plusieurs années pour arriver à réguler tout ce bois. Et vous allez passer votre temps en fait à retailler, ce qui n'est pas une bonne solution parce que ben, vous n'aurez toujours pas de fruits.
Parce qu'à chaque fois qu'on va tailler, on provoque un désir de croissance de l'arbre.
Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez disons, pour un arbre fruitier qui a fini l'année, le cycle de l'année, quelque part, qu'est-ce qui se passe à l'automne? Ben vous avez la sève redescend dans les racines, tout simplement parce que l'hiver, ben les racines travaillent par contre, hein, c'est-à-dire que ça continue de pousser pendant l'hiver. Et donc, cette sève, c'est son 100%, quelque part, par rapport à la ramure qu'il a, c'est son 100%. Si vous, pendant l'hiver, vous coupez, un quart ou un tiers des feuillages, ben, dès lors qu'au printemps ça va ressortir, ben, ce un quart, il faut qu'il fasse quelque chose avec.
Il faut qu'il réapparaisse.
Donc forcément, il va faire du bois à feuilles, et en particulier des grands jets, des grandes tiges, donc des gourmands, et des choses qui vont être très vigoureuses, et pour arriver à les rendre à fruits, en fait, pour qu'elles se remettent à fruits, ça va demander beaucoup de temps. Donc l'idéal, c'est de tailler en fait pendant la fructification. Alors ça a deux avantages. Quand on est en train de ramasser les cerises, ben quelque part ça va nous permettre par exemple de tailler les branches du haut et donc de faire tomber, enfin de baisser un peu le niveau par exemple du cerisier, de rénover un peu la ramure. Et ces branches, quelque part, comme elles portent des fruits, vous allez pouvoir les ramasser plus facilement. On ne va pas cicatriser avec un mastic les branches qu'on vient de tailler parce que ben justement, les prunus, qu'on appelle les prunus, la famille des fruits à noyaux, en fait, elle produit beaucoup de sève. Donc, en fait, ce n'est pas utile de cicatriser parce que la gomme que va créer l'arbre va cicatriser de lui-même.
Alors, ça me fait penser à une question. C'est que j'ai remarqué, au printemps, souvent, les cerisiers, ils produisent de la gomme. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est parce qu'on a trop taillé?
Alors, ça peut être deux choses. Si vous voyez que vraiment, il y a un excès de gomme à un endroit localisé, c'est que généralement, c'est signe qu'il y a un problème sur cet endroit-là. C'est une façon pour lui de se réparer, mais en même temps, c'est signe qu'il y a un souci. Est-ce qu'il y a une attaque parasitaire? Est-ce qu'il y a une blessure? Donc ça, il faut s'en inquiéter. Par contre, si c'est un excès de gomme sur la plupart des rameaux ou sur la totalité des branchages, c'est simplement que peut-être qu'il a beaucoup de vigueur à ce moment-là. Donc il faut savoir que chez les fruits à noyaux, la sève monte rapidement. Donc voilà, vous avez un excès de gomme qui va apparaître parce qu'il est en pleine croissance et surtout que la vigueur est en pleine montée. Et donc il y a cette petite excroissance, mais ça sera de l'ordre de quelques gouttes à différents endroits sur l'arbre. Donc ça, c'est normal.
Donc il n'y a pas spécialement de traitement à faire quand on voit de la gomme?
Seulement si vous voyez qu'elle est à un endroit, qu'il y a vraiment un écoulement qui est important. Là, il faut s'en inquiéter.
Alors, quel traitement on peut...
Alors, il faut gratter. Il faut y aller, vous désinfecter une serpette et vous grattez, vous regardez où est le problème. Est-ce que l'aubier est marron, etc. Ça peut devenir d'un chancre. Est-ce qu'il y aurait un trou, par exemple, fait par un insecte? Enfin, voilà. Là, il faut gratter et vérifier ce qu'il y a. Et puis, traiter derrière avec un peu de bouillie bordelaise ou Enfin, un anti-cryptogamique, hein, principalement, anti-champignon, pour éviter que ça se... que ça se, se enfin, voilà, que ça s'infecte.
Voilà, et on est bien sur des traitements bio, hein,
Oui, tout à fait. Anti-cryptogamique, vous avez des purins qui vont faire le même effet, comme par exemple la prêle, voilà, c'est des purins, si vous ne voulez pas utiliser de la bouillie bordelaise.
Ok, donc là maintenant on est sous cet arbre, c'est vrai que il donne envie de manger. Qu'est-ce qu'il y aurait à couper d'après vous là?
Alors en cette période, ben, l'idéal c'est de couper le bois mort. Hein, tout bois mort laissé dans un arbre, c'est jamais bon, parce que ça sera des lieux où vont s'installer en fait ben, les maladies, et en particulier les problèmes des champignons. Il faut savoir que les fruits à noyaux vont être très sensibles aux champignons. Alors il va y avoir le chancre, il va y avoir l'oïdium, la moniliose, etc. Donc voilà, c'est le bon moment justement parce que c'est en feuille ben, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre arbre. Donc
Alors
là, si on regarde un peu, voilà.
j'en vois une là-haut, mais c'est un peu loin.
Là, voilà, il y a des très grosses qui, par exemple, ne sont pas en très bonne forme. Donc ça, il faut se dire, bah, tiens, voilà, c'est le moment, il faut que j'attrape mon raisset, hein, donc c'est la scie arboricole, hein, si vous préférez. Et là, on va commencer à s'intéresser à ce genre de choses. Vous voyez, là, vous avez ce qu'on appelle un moignon. Un moignon, c'est en fait une branche qui a visiblement été cassée, puisqu'on voit que le bout n'est pas lisse. Et si vous regardez, en fait, l'écorce s'est rétractée sur une grande partie de cette partie-là. Donc les fruits à noyaux n'ont pas la capacité de repartir si on les taille en milieu de branche. Autrement dit, sur votre branche là, si vous devez tailler, vous devez toujours tailler à l'aisselle d'une autre branche.
À l'aisselle, c'est-à-dire au...
Juste alors je dirais juste avant une branche, une brindille, il faut vraiment, voilà,
Il y a le
imaginez.
rameau principal et il y a des brindilles et on
Et on
coupe...
va couper juste en dessus de la brindille. Hein, si on suit le sens, donc juste en dessus de la brindille, pour laisser la brindille. Parce que sinon, si vous coupez au milieu de la branche, sans tenir compte, ben, vous vous dites, ah ben si, non, il y a un œil un peu plus bas, mais cet œil va pas déclencher la naissance d'une nouvelle branche. Il n'a pas cette capacité-là. On n'est pas sur du fruit à pépin qui, lui, est justement, quand on cherche à ralentir la vigueur d'un fruit à pépin, on va lui faire faire plein de petites branches. Chez les fruits à noyaux, ça ne marche pas. Il va tout simplement laisser mourir cette branche-là. Et c'est vraiment ça. Et vous voyez, à aucun moment, il n'a pu faire de nouvelles branches sur ces bouts de branches. Et en fait, soit l'écorce se rétracte, ce qui crée en fait un aubier qui va être en fait laissé apparent. Et l'aubier, c'est quand même la charpente de votre arbre. Hein. C'est du bois mort dans le sens où la sève n'y passe pas. Mais c'est bien la charpente de votre arbre. Et cet aubier qui est laissé sans la protection de l'écorce, il va être sensible à l'humidité, aux insectes xylophages et bien sûr aux champignons. Et donc il faut éviter de laisser ce qu'on appelle voilà, des moignons, hein, des chicots aussi, ça peut prendre parfois ce nom-là. C'est-à-dire c'est des bouts de branches qu'on a coupés et finalement on n'est pas allé au bout alors qu'il aurait fallu revenir vraiment à la base et tout couper. De façon à ce que l'arbre ben, il puisse arriver en fait à se cicatriser de lui-même. Et pour vous montrer juste un petit exemple là, voilà, sur une branche. Si vous regardez à la base de la branche, et en particulier voilà, quand elle est rattachée aux charpentières, vous voyez qu'il y a une espèce de bourrelet autour de cette attache.
Comme des plissements.
Comme des plissements. Eh bien, ces bourrelets, c'est ce qu'on appelle la cicatrice. Voilà, c'est le lieu où se trouve le maximum de cellules cicatricielles. Donc il faut le couper, il faut couper cette branche juste un peu au-dessus. Hein, vraiment à proximité de cette cicatrice, de façon à ce que ben, justement ben, les cellules fassent leur travail rapidement et qu'elles viennent se superposer donc à la coupe et finalement elles cicatrisent rapidement l'arbre.
Allons-y alors, on va couper celle-là parce qu'elle gêne cette branche. Voilà, donc juste au bourrelet. Alors la lame coupante du côté du tronc.
Toujours du côté de la partie qu'on va laisser sur la plante. Elle est un peu grosse.
Ouais.
Voilà.
Ah, ça y
Hop.
est.
Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, on va regarder la couleur de l'aubier. Alors toujours pareil, quand on coupe comme ça une branche fraîche, c'est important de regarder la couleur de l'aubier. L'aubier, en principe, il est de cette couleur-là.
Un peu blanc.
Un blanc crème. Dès lors que vous voyez que votre aubier, le centre de l'aubier, il prend un ton marron, mais ça peut aller jusqu'à noir, c'est pas bon signe.
Ah.
C'est que votre arbre, il y a un champignon dans le cœur de l'aubier.
Ah mince.
Ce qui s'explique parce que voilà, on a différents endroits dans cet arbre-là qui a été, ils ont été souvent taillés. Voilà, pas toujours très bien taillés. C'est des choses, hein, mais ça n'empêche pas de se maintenir. Hein. Donc là, le souci, c'est ça. Il y a le champignon, il est dans le bois. Donc là, ce qui est important, maintenant qu'on sait que le champignon est dans le bois, c'est de faire attention à ce que surtout on ne déséquilibre pas cet arbre-là quand on va le tailler. Alors pourquoi ? Ben parce que, alors l'aubier, c'est la charpente, mais néanmoins, si les tissus qui sont autour sont sains et font office en fait de muscles quelque part et de maintenir l'aubier, ça ne posera pas trop de problèmes. Par contre, si vous amusez à trop tailler et que d'un côté, à un moment donné, vous allez le déstabiliser, d'un côté parce qu'il sera plus sujet au vent, etc. Donc le risque, c'est qu'en fait, ces tissus cicatriciels, enfin ces tissus qui le maintiennent, en fait, ne soient pas suffisants, puisque l'aubier sera abîmé. Donc voilà, c'est toujours faire attention. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir, puisqu'on est en pleine période de végétation, en fait, donc voilà, là, l'aubier est quasiment entièrement marron. Donc c'est pas bon signe.
Donc cet arbre est malade.
Cet arbre est malade, voilà. Maintenant, il semble être en bonne santé, mais on a en effet des petits effets. Donc si vous regardez, là, on a une petite sortie de gomme à cet endroit-là. Ouais. Ça, c'est de la gomme, ça.
Ouais.
Voilà, mais ça est, voilà, là aussi. Donc on voit que cette branche-là, elle a peut-être un peu plus de mal. Voilà, donc il y a un petit souci de champignons, je pense, dans l'arbre. Donc après, il ne va pas si mal que ça, quand même. Donc c'est, je vous dis, tant que l'enveloppe extérieure se maintient et reste sans trop de plaies, etc., il devrait pouvoir se maintenir quelques années. Mais il faut faire attention parce que c'est un arbre qui sera fragile.
Et comment on fait pour lui redonner un petit coup de boost là ?
Là, c'est difficile parce que donc il faut ça. On est sur le cerisier. C'est pas des arbres qui vivent non plus. C'est pas un pommier ou un poirier qui va durer 100 ou 150 ans. C'est un cerisier, donc il est déjà assez vieux. Je pense que voilà, il n'y a pas grand chose à faire, peut-être un ou deux traitements en hiver, mais là c'est trop tard. Enfin, par rapport à l'aubier, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire une fois que l'aubier est...
Un peu de compost au pied à l'automne.
Voilà, lui donner un peu. Mais bon, c'est pas un arbre qui va vivre très très vieux, enfin beaucoup plus vieux que ça. Quoi. Mmh. Voilà, c'est juste se dire ça, c'est être conscient que ben, c'est un arbre fragile. Alors si on veut conserver la variété, ben, c'est le moment de s'en inquiéter. Et de se dire, bah, tiens, celle-là, c'est une bonne variété, on veut la conserver. Donc, au mois d'août ou septembre, ben, on va reproduire la variété sur un porte-greffe qu'on va trouver ou qu'on va acheter. Et puis...
Et on peut greffer un greffon d'un arbre malade comme ça ?
Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, il va falloir choisir la branche sur laquelle vous allez prendre votre greffon. Donc, si... Bon, là, on n'a pas de bonne branche, mais il nous faut une branche déjà de l'année. Donc là, voilà, on est sur une branche de l'année. Donc, on va choisir le greffon qui sera dans cette partie-là. Là, c'est un peu tôt. Hein. Il n'est pas encore outé. C'est ouvert. Pour l'instant, il n'est pas rigide. Hein. Mais voilà, vous allez choisir donc, dans le bois de l'année qu'il porte. Donc, un bois sain. Et alors, pour ça, ben, tout simplement, hein, on coupe au sécateur. Et là encore, on regarde l'aubier, toujours. Tant que l'aubier est bien beige, hein, voilà, beige, crème, enfin... c'est bon, c'est que le greffon est sain. Et puis vous viendrez prélever un œil. Donc l'œil, c'est la partie qu'on trouve à la base de la feuille. Hein. L'œil, c'est cette partie-là. Et donc on viendra greffer cette partie-là. Donc plutôt fin août, début septembre, voire mi-septembre.
D'accord. Alors, on change un peu de sujet parce qu'on est en pleine production de cerises, sauf que je le vois, elles sont un petit peu abîmées.
Oui, alors là, on est sur un gros souci, en fait, qui est actuellement, qui touche les cerises, mais pas que. Donc, c'est un parasite qui s'appelle le drosophile Suzuki. Le drosophile, c'est un moucheron hein, qu'on connaît chez nous. Hein. Le drosophile, c'est le petit moucheron qu'on trouve sur les fruits. Vous savez, on les a dans le compotier à la maison. Et puis, ils commencent à fermenter. Et là, vous avez plein de petits moucherons qui apparaissent. Ça, c'est ce qu'on appelle les drosophiles. Sauf que celui-là, cette espèce-là, la Suzuki, ce drosophile, en fait, il n'attend pas que les fruits soient fermentés. Lui, le goût fermenté, ce n'est pas forcément celui qui l'intéresse le plus. Lui, il aime le goût sucré.
Ah oui, comme moi.
Voilà, exactement, c'est un bec fin. Donc il aime tout ce qui a un parfum sucré et il est attiré en plus par la couleur rouge.
Ah, comme moi aussi.
Donc voilà, mais comme la plupart des gens, hein, faut savoir que le rouge attire. Et donc le drosophile fait beaucoup, beaucoup de ravages, que ce soit sur les cerises ou sur les fraises. Donc ce tout petit drosophile, hein, parce qu'il est vraiment minuscule, hein, c'est pas très gros, je crois qu'il fait 3 mm de long. Donc c'est vraiment pas très gros. Et malheureusement, il va piquer. Il va piquer dès lors que les fruits vont commencer à rougir, il va venir pondre en fait dans les cerises. Et son petit ver, ben, il est très très gourmand et en fait il mange la chair de la cerise.
Ah.
Sauf qu'en mangeant la chair de la cerise, en fait il va provoquer une fermentation. Puisque ben, l'oxygène va rentrer et donc ça va provoquer la fermentation. Et ce qui fait que ben, les fruits, non seulement ils sont plus bons à manger, et alors ce qui est très curieux, c'est que vous les regardez dans l'arbre, ils ont l'air beaux, ils sont magnifiques. Puis vous les touchez et là vous apercevez que c'est... Alors d'abord c'est vide, hein, quelque part il y a un creux dedans. Et puis si vous regardez, en fait, ça, vous avez plein de petits trous. Si vous appuyez un peu, vous voyez le jus qui goûte en fait de tous ces petits trous, parce qu'en plus de ça... Le drosophile va en piquer, voilà, une cerise va être piquée plus d'une dizaine de fois. Donc il y a 10, potentiellement jusqu'à 10 petites larves qui vont se développer dedans.
Ah oui, bon, alors c'est foutu, quoi.
Voilà, quand vous commencez à la voir, c'est trop tard, la récolte, elle est foutue. Très honnêtement, c'est ça.
Oui, donc là, c'est le cas, hein, malheureusement.
Là, c'est le cas, et malheureusement, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de cerises, y compris des cerises de production. Puisqu'on a un vrai problème à l'heure actuelle en production de cerises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement existant contre le drosophile. Des essais sont en cours sur le kaolin. Le kaolin, c'est une argile blanche très fine. Et en fait, on fait un lait de kaolin et on pulvérise les fruits quand ils commencent à peine, à tourner. En gros, quand ils commencent à avoir ce stade-là, on va pulvériser en fait sur les fruits. Voilà, vert jaune. On va pulvériser sur les fruits et l'ensemble de l'arbre. L'idée étant qu'il faut cacher cette couleur rouge. Et puis également, essayer d'émettre, en fait, ça, le kaolin va se déposer en couche fine sur le fruit. Donc ça va l'épouser. Et ça va garder un peu le parfum à l'intérieur, finalement. Et ça évitera que ça émette du parfum et qu'on voie la couleur rouge. C'est à peu près le seul traitement qui, à l'heure actuelle, a un petit effet sur le drosophile. Mais le problème, c'est que ben, nous, on peut se le permettre quand on est en verger amateur. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, oui, si on a un seul cerisier, qu'il n'est pas très haut, on va essayer de traiter au moins les fruits qu'on veut garder pour pouvoir les manger. Bien sûr, pour un producteur de cerises, c'est compliqué parce que ben, les cerises, ce n'est pas des fruits qu'on lave énormément. Hein. Sinon, vous détériorez très vite le fruit,
leur
et puis leur tenue et leur saveur aussi. Hein. Mmh. Donc, en l'occurrence... Voilà, je ne suis pas sûre que le consommateur soit prêt à acheter une cerise où il y aurait des traces de blanc dessus, par exemple. Ça, ce n'est pas encore rentré dans la tête du consommateur que voilà, c'est malade ou c'est pas parce que c'est sale, parce qu'il y a du kaolin dessus, que ce n'est pas bon à manger. Le kaolin, c'est de l'argile blanche, c'est tout à fait naturel, on peut en manger, on a même des traitements à base de kaolin quand on a, par exemple, des problèmes gastriques. Donc voilà, mais... passer le cap de se dire ah ben si, mais je vais les acheter malgré le fait qu'elles aient des traces de blanc, c'est un peu problématique. Donc c'est un vrai problème le drosophile, d'autant que je vous l'ai dit, ils aiment les fruits rouges et sucrés, donc la fraise, ils sont très très friands de la fraise, mais c'est surtout ils vont rester en place toute la saison. Moi j'ai eu le cas de kakis attaqués par les drosophiles, de vignes attaquées par les drosophiles, donc ça peut faire beaucoup beaucoup de dégâts tout au long de la saison. Les framboises, bien sûr, n'en parlons pas, enfin voilà. Donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors le seul avantage qu'on a, nous, dans le sud méditerranéen, c'est que le drosophile est japonais, donc il est plutôt habitué à un climat continental, et que dans le sud, en fait, il n'aime pas du tout la canicule. Donc il a du mal à se reproduire. Et donc, ben, on a la chance, nous, d'avoir des périodes de fortes canicules, ce qui fait que généralement, à l'automne, souvent, il a un peu disparu, ou en tout cas, il n'est pas encore trop réapparu. Et on a une chance de toucher ben, nos figues, par exemple, sans trop de drosophiles, enfin voilà, entre autres.
Sabine Rosier, merci beaucoup. Donc, on parlait aujourd'hui de la cerise, de la taille et de ce ravageur qui vient nous manger nos bonnes cerises. Je propose... J'en profite pour parler d'une rencontre que nous avons au musée de Maison Rouge le 5 juin, dimanche 5 juin à 14h30. C'est une table ronde, les jardins et les variétés locales face au changement climatique. Vous serez présente?
Je serai présente, oui, avec Monique Garcia et vous-même.
Voilà, on sera tous les trois et on parlera justement du défi du réchauffement climatique.
Tout à fait. On va essayer de trouver, en tout cas, expliquer en quoi les variétés locales et les façons de cultiver aussi locales peuvent aider en fait à faire face à ce changement climatique qui est déjà bien présent, mais qui va sans doute s'accélérer encore.
Vous pouvez retrouver Sabine Rosier également au centre de pomologie d'Alès si vous avez une question par mail.
Par mail à centre.pomologie@ville-du6alès.fr.